إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، لازلنا في سلسلة مناسك الحج، ولقد وصلنا في المبات في مزدلفة. Alors, on est toujours donc la série concernant le pèlerinage et on a parlé la semaine passée. On est arrivé donc à Muzdalifa. En sortant de Arafat, c'était le 9e jour de Dhul-Hijja, on se dirige vers Muzdalifa et on avait dit, c'est-à-dire dormir à Muzdalifa, c'est obligatoire. Pas comme certains disent, non, c'est rien, tu t'installes là une heure ou une demi-heure, etc. et tout ça, parce que le bus il va partir et tout ça. Tout ça, c'est des erreurs fatales que les pèlerins font quand ils vont au pèlerinage. Alors, il faut bien savoir que dormir à Muzdalifa est obligatoire, excepté les femmes ou les faibles ou les malades peuvent quitter Muzdalifa, mais simplement après minuit, mais pas avant. Pas avant, c'est-à-dire ils doivent rester là jusqu'à minuit. Et le restant reste à Muzdalifa. إذن قلنا أنه المبات في مزدلفة في الراجح من الأقوال أنه واجب وليس سنة فقط بل واجب، بل إذا قلنا واجب فيجب عليه الدم من لم يبت في مزدلفة. إذن المبات في مزدلفة واجب إلا على الضعف والنساء، لكن لا يجوز لهم الخروج من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل. الآن نرى وقلنا أنه يبيت في مزدلفة ثم يصلي صلاة الفجر في بداية الفجر، يصلي صلاة الفجر ثم يبدأ في الدعاء إن كان قرب مشعر الحرام أو في كل مكان في مزدلفة، ثم يرفع يديه ثم يدعو الله عز وجل حتى الاصفرار، ثم يخرج من مزدلفة متجها إلى ميناء، إلى جمرة العقبة الأولى يوم العيد. Alors de Muzdalifa, on dit qu'il doit dormir là, tout le monde excepté les faibles. Alors, le matin, il prie le Fajr, donc à Muzdalifa, dans la première heure donc de le Fajr. Il prie le Fajr. Quand il aura fini, il commence à faire des invocations là. Donc, Muzdalifa, il ne doit pas sortir. Il attend simplement quand il y aura le soleil commence à se lever, c'est-à-dire on voit la lueur rouge comme ça, ou jaunâtre comme ça, à ce moment-là. Il sort donc de Muzdalifa en se dirigeant à Mina pour jeter la première stèle, la grande stèle, le jour de l'Aïd.
الرمي ويلتقط الحصيات التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة في ميناء، وهو آخر الجمرات في أقربهن إلى مكة. Alors, on voit bien ici, ويلتقط الحصيات التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة في ميناء. Alors, il ramasse les sept pierres pour jeter les stèles le jour de l'Aïd, cette pierre. On va voir après les détails donc de cette pierre-là. Alors, on avait dit que quand on voit les gens ramasser ces pierres à Muzdalifa, parce que certaines personnes croient que s'ils ne les ramassent pas à Muzdalifa, s'ils les ramassent d'ailleurs, ces pierres ne sont pas valables, etc. Et comme on a dit, il y a des gens qui les lavent et les embrassent. Tout ça, c'est des bidards, des hérésies. On peut ramasser ces pierres-là, donc n'importe lieu, même donc à Mina, même tout près de stèles, etc. C'est des pierres simplement pour faire une adoration.
إذن هنايا كيقول بأنه يجمع ديك سبعة الحجرات اللي غادي يرمي بهم يعني جمرات العقبة. وقلنا في الدرس السابق أنه من الناس، بعض الناس أنهم كيجمعوا ديك الحجرات من مزدلفة، ومنهم اللي كيظن أنهم لا ما جمعهمش من مزدلفة ديك الحجرات ما كيصلحوا شيء، ربما منهم اللي كيرجع حتى مزدلفة باش يجمع ديك الحجرات، ومنهم اللي كيغسلهم. كل هذه من البدع، بل يجمع الحجرات من أين ما ولو حتى قدم جمرات العقبة اللي رموا بها الناس في ذلك المكان. ويستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه.
Ah ben là, bah c'est bien celui-là, si tu fais pas tranquille là, c'est mieux que l'autre, hein. L'autre il est un peu
Alors, on est arrivé ici, c'est-à-dire on revient, et on est arrivé ici à Minan. Voilà les stèles, il y en a trois.
Alors ici, il te dit que celle qui est tout près de côté de Mecca. Ok, tu as Mecca par exemple ici, et tu as Minan ici. Et tu as les trois pierres, les trois stèles ici. La grande, elle est tout près de côté de Mecca. Et la plus petite, elle est tout près donc de côté de Minan. Alors lui, il dit, « وَيَسْتَقْبِلْ الْجَمَرُ وَيَجْعَلْ مَكَّ عَنْ يَصَارِهِ وَمِنَنْ عَنْ يَمِنِهِ »
Alors, ici, il est Mecca. Et Minan, il est ici. Ok ? Et les stèles, il est là. Maintenant, lui, il doit se mettre pour mettre Mecca sur sa gauche. Et Minan, alors il ne doit pas venir de ce côté-là, il doit être de ce côté-là. Mais ça, ce n'est pas obligatoire ou quoi que ce soit. C'est une sunna. Si tu trouves qu'il n'y a pas possible donc de venir ici, il y a trop de monde, etc., tu peux venir de là, ou de là, ou de haut, ou d'en bas, n'importe où. Mais si tu trouves le moyen de venir de ce côté-là, hein, tu as la stèle devant toi, et tu as Mecca de côté gauche, et tu as Minan de côté droite. Et donc, il y a l'insan à Minan, ويجعل استقبل منن ويجعل مكة على اليسار ويجعل منن على اليمين لكن هذه سنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيف على فإذا استطاع الإنسان يوقف ديك الموقف أنه يجعل الجمرة الكبيرة اللي هي من جهة مكة ويرجمها والمكة على الشمال ويمينن على اليمين جيد إلى ما استطاع شيء في أي مكان يستطيع يرجم ويرميها بسبع حصيات مثل حصى الحذف وهو أكبر من الحمصة قليلا. Alors les pierres ici, c'est comment on appelle le hummus? Les pois chiches, quelque chose comme ça? Ah, les pois chiches. Alors la pierre doit être comme le pois chiche, un peu plus grand. Hein, ils disent un peu plus grand que le pois chiche et plus petite que le foule. C'est quoi le foule? Les fèves. Ok. Ça doit être entre les deux là, pas les cailloux là pour arracher les trucs là. Ça, c'est... Ou alors, à ce moment-là, c'est ce genre de pierre là, il doit être un peu plus grand que les pois chiches, c'est tout. Cette pierre, hein, il le jette, on va voir comment il va dire, etc. وَيَرْمِي خَاشِعًا خَاضِعًا مُكَبِّرًا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَفْعَلْ مَا يَفْعَلُ كَثِيرٌ مِنَ الْجُهَالِ مِنَ الصِّيَاحِ وَاللَّغْطِ والسب والشتم فإن رمي الجمار من شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمر إلا لإقامة ذكر الله ولا يندفع إلى الجمر بعنف وقوة فيؤذي إخوانه المسلمين أو يضرهم ويكبر مع كل حصاد. Alors, quand il arrive pour jeter cette stèle, la grande stèle qui est de côté de la Mecque, c'est la plus grande, on appelle la stèle plus grande, la moyenne et la petite. La petite, elle est de côté de Minan. Hein? Voilà, ici. Ah, j'ai pas vu. Voilà, ça c'est les stèles. Ok. Alors, ici, c'est la grande, c'est celle-là qui va faire la première, le premier jour. Ok. Alors ici, tu dis Mecca, c'est par ici, et Minan par là. Alors ici, tu vois bien que lui, il s'est mis de ce côté-là. Ok ? Alors Mecca, il est de ce côté-là, et Minan de ce côté-là. Alors Mecca, il est à sa gauche, et Minan, il est à sa droite, et il dit, j'étais à ce moment-là les stèles.
Alors il te dit, à ce moment-là, il faut quand même comprendre cette situation-là. Cette situation-là, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça, cette histoire-là? C'est-à-dire qu'Ibrahim, alayhi salatu salam, quand Allah azza wa jalla a ordonné d'égorger son fils, hein, Ismaïl, alayhi salatu salam, vous voyez deux prophètes. Ibrahim, le père des prophètes, et son fils Ismaïl, un autre prophète. Deux prophètes se rejoignent dans le même temps, dans un même lieu. Les deux prophètes, un père et un fils. Et le père dit à son fils qui est prophète, Ismaïl alayhi salatu salam, Allah m'ordonne de t'égorger. Alors cette réponse-là, donc de fils, il dit, fais ce qu'Allah t'ordonne. Vous imaginez cette image, donc de père et le fils. Ici, si on peut arrêter, on peut faire carrément plusieurs doros, rien que ce ce moment donc de Ibrahim avec Ismaïl pour bien comprendre cette stèle, hein, pour s'imaginer comment Ibrahim alayhi salatu salam il était donc ce temps-là avec son fils. Alors Ibrahim alayhi salatu salam dit à son fils Ya Bunaya. Bunaya, c'est le nom qu'on peut, je sais pas, il y a un équivalent en français.
Mon fils.
Bunaya, ça vient de Tasrir, mais peut-être on peut comprendre le fils de son fils. Bunaya, on dit Ya Ibni, Ya Bunaya, c'est plus doux. Hein? Hein? Fiston, quelque chose comme ça. Non. Alors, il lui dit Oh Ya Bunaya. Et regardez comment il lui dit Je vois que je vais t'égorger, je dois t'égorger. Imaginez ça. Le père qui dit à son fils, je t'égorge, coupez la tête. Alors, ici, le terme que le père envoie avec son fils, c'est un dialogue. Lui, il reçoit un ordre de Allah. Il n'a pas demandé son avis ou quoi que ce soit. Le ulama, il te dit, il n'a pas demandé son avis, car c'est un ordre, vient de Allah, il doit l'égorger, un point, c'est tout. Mais Ibrahim, il dit à son fils, je vois dans le rêve que je vais t'égorger, alors qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses, toi, mon fils? Ici, qu'est-ce que tu penses, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire est-ce que tu y es d'accord ou pas d'accord. Ibrahim doit exécuter. Ils disent qu'Ibrahim pose cette question, ce dialogue avec son fils, parce qu'il veut l'associer dans les récompenses des Hassanat. Il veut l'associer dans l'adoration. Et on voit bien que le fils ici, il dit « Ya Abati ». Regarde quel dialogue. « Ya Bunaya, Ya Abati ».« Oh mon père ». Et encore, mon père, c'est en français, je ne sais pas. « Ya Abi, Ya Abati ». Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que la langue arabe, elle est plus riche de toutes les autres langues. Hein. Et les autres langues, ils sont un peu pauvres. Ils n'ont pas beaucoup de termes. En arabe, il y a... Alors, il dit « Ya Abati ». Si on regarde, on tourne vers le dialogue qu'il y a eu avec... Ibrahim alayhi salatu salam avec son père. Ibrahim il dit Ya Abati. Encore une fois. Ibrahim ici il dit à son fils Ya Bunay. Il dit à son père Ya Abati. Son père qui est mécréant il lui répond quoi? Il n'y a pas dit Ya Bunay. Il dit Oh Ya Ibrahim. Deux dialogues différents. Deux musulmans, père et fils, Ismaïl et Ibrahim. Ibrahim dit « Ya Bunay », Ismaïl répond « Ya Abati ». Deux situations, un musulman, fils et un père mécréant. Le fils dit le même terme « Ya Abati » et l'autre lui répond « Ya Ibrahim ». C'est pour ça qu'on voit bien que le genre de l'islam, le Coran, si tu suis lettre par lettre, tout est bien détaillé, tout est bien parfumé. C'est-à-dire que tu ne peux pas trouver une phrase, un terme comme ça simplement. Tous les termes sont bien placés à leur place. Alors ici, il dit, oh mon père, fais ce qu'Allah Azzawajal t'ordonne, tu vas me trouver, Inch'Allah, parmi les gens qui endurent et qui résistera. Alors, quand il est parti pour égorger son fils, le Satan... vient dans son chemin. Et il apparaît carrément pour déveiller Ibrahim alayhi salatu salam de cette action. Et là, Ibrahim alayhi salatu salam l'a frappé avec les sept pierres en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il disparaît devant son chemin et il continue ce chemin. Il lui apparaîtra une deuxième fois et une troisième fois. Après, il ne le verra plus. Il va faire ce qu'Allah Azza wa Jal lui ordonne. Alors, cette stèle-là, on a compris maintenant c'est quoi? Cette stèle, c'est un lieu qui a eu un grand combat entre la croyance et la mécréance. Un grand combat, l'obéissance à Allah Azza wa Jal contre désobéir à Allah Azza wa Jal. Car Iblis, lui, contre Allah Azza wa Jal, il lui a dit... prosterne-toi devant Adam, il a dit non, moi je suis mieux que lui. Alors Iblis, il a décidé de ramener tout avec lui à l'enfer. Hein? Il a même juré, il dit, oh Allah, je ne raterai pas. Hein? Et là, il voit bien qu'Ibrahim et Ismaïl, ils sont dans une adoration immense. Le père va égorger son fils. Et quel fils? Fils unique.
à quel âge? Lui, il espère d'avoir un fils. Il est arrivé à 80 idées. Il n'a pas de fils. Tout d'un coup, il a un enfant. Cet enfant commence à marcher pour avoir un ami, un copain. Allah lui ordonne de gorger. Vous avez vu les épreuves? Nous, on a cette épreuve? Rien du tout. Nous, simplement jeûner, fermer un peu les yeux par là. Et, ouh, c'est difficile. Imagine-toi, on a une épreuve de gorger nos enfants. C'est fini, il n'y a pas d'islam là. Mais Allah Azza wa Jal nous dit, le omniscient, le sage, il dépose les choses à leur place. Allah, il nous connaît, il connaît notre cœur, il nous connaît notre foi. Il ne va pas nous donner un examen, une épreuve, en dessous de notre moyen. Il ne va pas nous donner cette épreuve. Mais Ibrahim, il connaît son foi. Il connaît la foi d'Ismaïl, alayhi salatu wassalam. Cette épreuve d'égorgement, c'est à votre taille, à votre niveau, il n'y a pas de problème. Ça, automatiquement, Ibrahim, il exécute ce qu'Allah Azza wa Jal lui ordonne. Pour ça, Allah Azza wa Jal dit, « La yukallifullahu nafsan illa usaha. » Allah Azza wa Jal ne nous ordonne pas quelque chose donc de difficile. Impossible parce qu'il sera injuste. Pourquoi? Encore une fois, on va arrêter ici, si ça ne sera plus le pèlerinage, ça va être simplement des choses bien stassées pour comprendre cette situation. Et ici, on voit bien que cette épreuve-là, nous autres, on ne peut pas, Allah Azza wa Jal, nous donner une preuve comme ça parce que notre foi n'est pas à son niveau. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention parfois quand on dit qu'il faut quand même faire le foulard, laisser sa barbe, etc. Qu'est-ce qu'on voit, nous autres? Oui, mais si en Europe, difficile, compliqué, etc. On complique les choses. Et là, on est en train de dire comme quoi Allah Azza wa Jal nous a donné un examen en dessous de notre moyen. Est-ce que ça peut exister, ça? Est-ce qu'Allah nous donnerait une épreuve, un examen que nous autres on ne peut pas? Ça n'existe pas. Alors, quand Allah Azza wa Jal me dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, c'est-à-dire que je peux le faire. Et ne pas dire comme quoi c'est dur, c'est difficile, etc. Oui, c'est dur et difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Bada'a l'islamu ghariban wa sayya'ud ghariban fatouba lil ghuraba. L'islam a commencé étranger. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire étranger? Imaginez-vous. Revenir un peu en arrière, là. Comment ils appellent ça, donc, traverser le temps et revenir en arrière, là? Flashback, tu fais tout à fait en arrière et tu regardes Quraysh. 360 statues sur le Kaaba. Tout le monde adore la même chose. Et un homme sort qui s'appelle Mohammed. Il leur dit, stoppez, ce n'est pas juste. Imagine-toi les mages. Le Quraysh, 300 statues, tout le monde la même adoration. Un homme qui vient sortir et de dire à son peuple, erreur fatale, ce que vous faites là, ce n'est pas le bon chemin, ça ne va pas. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, bada al-islam au gharib. Gharib, c'est un étranger, un émigré. L'islam, il est venu tout seul. Quand il est arrivé à Quraysh, il n'y a personne, il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout seul. C'est pour ça qu'on va l'appeler, il est fou, il est majnoun, il est sahir, il n'est pas bien, etc., etc. Et tous les mots qu'on peut imaginer. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'islam, il a commencé à maigrir, il va revenir étranger, on y est dedans. Essaye de pratiquer, essaye de laisser la barbe, d'habiller comme ça. Lendemain matin, dans ta famille, ton père, il va te regarder. Ah, Daou, dès que les intégristes, Daou Talibani, t'es foutu. Daou Talibani, ah, Ouldi, ah, mon fils, attention, ah là, ah, ça va pas, il faut pas aller avec ces gens-là, etc., etc. Sa fille, il met le khimar, le grand khimar, khalas. Ah, il est parti, Mskin, il est fou. Ça va pas, mon fils? Moderne un peu, Michael Jackson, la prière à gauche, à droite, c'est bon, tu vas, ça fonctionne comme ça. Non. Vous connaissez l'histoire donc de l'islam de Allal? L'islam de Allal. Ça, ça s'appelle Allal. Il a vu son copain, son ami, qui était un mécréant, un espagnol comme ça. Hein. C'était des amis tout le temps dans les bars, boire de l'alcool, etc. et tout ça. Allal et son ami Pedro, je ne sais pas quoi. Et un jour, la sœur de Allal passe. Et l'autre, là, le Pedro, là, il la voit et ça lui plaît. Il dit, ah, j'aimerais bien épouser ta sœur. Allal dit, pas de problème. Il dit, oui. Il dit, oui. Il dit, mais tu dois être musulman. Il dit, pas un problème. Je deviens musulman. Il dit, ben, on va chez l'imam, là. Tu vas devenir les musulmans, il va t'expliquer. Allal, il est arrivé avec son ami, il dit, voilà, il veut devenir musulman. L'imam, il dit, ça va, dit shahada, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadan rasulullah, il a dit, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadan rasulullah. Il dit, mais tu te lèves le matin pour faire le jeûne, déjeuner. Il dit, stop, stop. C'est quoi cet islam-là? Il dit, je veux simplement l'islam de mon copain Allal.
Je connais Allah, il est toujours avec moi. Ni le fajr, ni la jeûne, ni rien. Shadow Allah, il est tout le temps avec moi. C'est quoi? Il dit non, non, je veux simplement l'islam de Allah. Stop. Shadow Allah, il est le bar et la carte en poisson, tout le reste. Est-ce qu'on cherche nos autres? Peut-être on cherche l'islam de Allah. Nous ne savons pas ça. Alors ici, on voit bien que quand Allah Azza wa Jal nous a ordonné de faire une adoration, on doit la faire. Dur, difficile, et imaginez, c'est pour ça, comme je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Bada'a l'islam au ghariban, wa sada'audu ghariban, fatouba lil ghuraba ». L'islam, elle a commencé à émigrer, tout seul, pas de soutien, et ça va redevenir comme ça. Et vous allez voir, donc l'islam va s'avant que de plus en plus difficile. Hein, on voit bien maintenant avec le foulard, là, maintenant avec en France vient donc Sarkozy, donc la loi au point de vue de ne pas faire la kippa, là, etc. et tout ça, ça va devenir de plus en plus difficile. Et c'est là encore un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ya'ti zaman al-qabidu ala dini kal-qabidu ala al-jamr ». Il viendrait un temps, celui qui prendrait sa religion à ses bras, à ses mains, c'est comme quelqu'un qui tient une braise de feu dans sa main, ça brûle. Il essaye de pratiquer, ça brûle. Alors, on voit bien ici, donc, quand Allah Azza wa Jal a ordonné à Ibrahim alayhi salatu salam d'égorger son fils, c'était à son niveau de sa foi. Alors, nous autres aussi, on doit imaginer que quand Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'adorer, hein, qu'il nous a dit faites comme ça et comme ça, il n'y a pas un temps où l'examen, etc., oui, mais c'est difficile. Allah, il savait toutes ces choses-là, ce qui va se passer, il sait qu'est-ce qui va se passer. Et le prophète, c'est pour ça, il nous a prévenu, ça va devenir encore plus difficile. D'ailleurs, dans un autre hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'aurais bien voulu voir mes frères. Et les compagnons disent, ne sont pas tes frères. Il dit, vous, vous êtes mes compagnons. Mes frères, c'est ceux-là qui vont voir après. Et leur action veut 50 fois votre action. Nos actions veulent 50 de degrés que les compagnons. La récompense. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on y arrivera à leur action. Hein, on n'y arriverait jamais. Hein. Mais, c'est-à-dire, si tu fais une action, donc, c'est le compagnon dans ce temps-là l'a fait, il aura une récompense. L'action que nous autres avons fait maintenant dans l'adoration veut 50 fois plus que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, ils disent de nos actions, leur action. Ils disent de vos actions. Ton action que tu viens faire, ils viendront, les gens ils vont le faire, ils ont dit 50 fois degré plus que. Il dit pourquoi au prophète? Il dit Antum tajiduna man yu'inukum, wa hum sayajiduna, la yajiduna man yu'inukum. Vous, vous trouvez qui vous a soutenu? Le prophète, il est avec vous. Vous le voyez, vous avez un prophète. Et là où il y a un prophète, ceux-là, il n'y aura personne pour les soutenir. Ils seront tout seuls à se combattre. Ils ont un prophète qui est déjà passé. Ils suivent ce prophète, mais il n'est pas avec eux. Alors ici, on voit bien que quand Allah Azza wa Jal nous demande de faire quelque chose, il ne faut pas laisser le shaitan devenir comme ici, te met dans ton chemin pour te dire non, ce n'est pas pour toi, c'est difficile, tu es en Europe, etc. Il faut marcher avec le temps, etc. Toutes ces histoires-là. Non, parce qu'à ce moment-là, tu ne travailles pas, parce qu'on va te sortir, etc. Parce qu'on va te voir que tu n'es pas intégré. Tout ça, c'est des champs de bataille. Ici, on voit bien qu'Ibrahim a.s. a jeté le Iblis avec 7 pierres. Alors, imaginez-vous, maintenant, quand les gens vont en pèlerinage, ils se mettent dans cette situation, qu'est-ce qu'ils doivent se présenter quand ils jettent? Allahu Akbar. Ils jettent la pierre là, quand ils ramassent les pierres, en jetant ces pierres, savoir le prophète Ibrahim alayhi salatu salam, à quel degré de foi, à quelle obéissance il est arrivé pour aller égorger son fils, et quand Iblis s'est mis dans son chemin, il l'a abattu. La même chose, Iblis, il va se mettre dans mon chemin. Je ne vais pas le jeter avec cette pierre, mais je vais le jeter avec la foi de Allah Azza wa Jal dans mon cœur, dans mes actions, dans ma pratique. Ici, les gens ne se présentent pas, ils n'ont pas cette image. C'est pour ça qu'on entend des histoires, là, il y a un qui frappe là, « Ah, Oudla Haram, tu m'as fait divorcer de ma femme !» Mais non, ça n'a rien à voir. Si tu es divorcé de ta femme, cherche ailleurs. Car Iblis n'est pas là. Imagine-toi, Iblis il est là, on frappe avec des cailloux, lui, là, toi, là. Il attend que toi, le pèlerin, tu... mais il n'y a pas d'Iblis, là, il n'y a rien. Il n'y a ni Iblis, ni Shaitan. L'Iblis, il est dans ton cœur, il est dans ta tente, il fait déjà la bagarre avec des gens sur les marmites, sur les vêtements, et tu crois qu'il est installé là-dedans? Non, l'Iblis, il est avec vous. C'est celui qui te fait, par exemple, toi, tu frappes, oh, de la harab, pousse-toi. Iblis, il est là, il n'est pas là, alors. En frappant ton frère, là, il est juste à côté de toi.
Alors ici, il n'y a pas d'Iblis, il n'y a ni Shaitan, là, il n'y a rien. C'est pour ça, ici, il dit, toutes ces actions que vous faites, c'est simplement se rappeler. Un rappel. Donc, de voir cette action, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. De se rappeler de Allah Azza wa Jal, de la grandeur de Allah Azza wa Jal. Là, de penser la grandeur de Allah Azza wa Jal. De penser cette action d'Ismaïl alayhi salatu salam et l'action d'Ibrahim alayhi salatu salam et l'action d'Iblis, c'est tout ce qu'il y a. Alors on jette avec ces pierres-là et on dit Allahu Akbar sept fois. Alors la pierre, ils disent, ça doit quand même tomber là-dedans. Même s'il ne touche pas le bâton. Mais si tu le jettes et il passe de l'autre côté, non. Ça doit quand même tomber ici. Idan. ما غادي نترجمش كل شيء بهذا الاخر قلنا اذن الانسان من يمشي رجم الجمره العقبه يوم العيد يدير مكه على اليسار ويدير مينا على اليمين ويجرميها بسبعه الحجرات تكون شويه كبيره على الحمص واصغر من الفوله ثم يقول الله اكبر الله اكبر مع كل حجره واحده واحده وما يرميهمش بسبعه واحده واحده وخصها يعني تطيح في ديك المكان في المكان تاع الجمره وما يكونش أنه يكون عند الفكرة بحال الناس اللي كيضربوا بالصباط ولا بالمضان وظن أنه إبليس راه موجود ما تما لا إبليس لا والو هذيك عبادة كيفكر به الإنسان ديك العظامة في ديك الوقت نتاع إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي طاع الله عز وجل اللي أمره يذبح ولده ولده عاود كذلك طاع البابا قال له دير اللي أمرك الله عز وجل هذه كل ديك الحركات اللي غديروا في مكة من الطواف من رمي الجمرات من الصفا كلها خصك تذكرك بالله عز وجل ذكرك بنعم الله عز وجل ذكرك بعبادة بطاعة الله عز وجل لا غير ويقطع التلبية مع آخر حصات alors il coupe là par exemple s'il disait التلبية et tout ça il le coupe il arrête de dire التلبية avec la dernière pierre qu'il jette ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس ولو كان من النساء أو الضعف الذين أبيح لهم الانطلاق من مزدلفة بعد نصف الليل فهذا شيء والرمي شيء آخر. Alors, il faut que cela pour jeter les stèles ce jour-là, il faut pas le jeter avant le lever de soleil. Pas avant. C'est-à-dire, si tu arrives à Minan avant le lever de soleil et tu es devant la stèle, évidemment, tu vas trouver beaucoup de gens, ils sont en train donc de jeter les pierres, ne le fais pas, tu dois simplement attendre jusqu'au lever de soleil. Même les gens qui sont partis à minuit, tu as des gens qui ont autorisé donc de partir de Minan à minuit, c'est-à-dire qu'ils vont arriver à Minan avant, des heures avant. Ils vont même prier le Fajr là. Est-ce qu'ils sont autorisés donc de jeter les stèles? Non. Il y a certains hadiths, certaines femmes de prophètes, ils ont jeté les stèles avant le lever du soleil, mais tous ces hadiths d'Aïfa. Alors, on jette sa stèle là, après le lever du soleil. Soit, même pour ceux-là qui sont partis donc de Muzdalifa à minuit, qui sont arrivés à Minan avant le Fajr. Ils doivent attendre, car partir de Muzdalifa c'est une chose, jeter les stèles c'est une chose. Alors, ils peuvent partir à minuit, mais s'ils arrivent là à Minan, avant le Fajr, ou même après le Fajr, il ne jette pas les stèles, juste qu'il voit le soleil se lever. À ce moment-là, il jette les stèles. Idan hanaya, rami al-jamarat al-aqaba yawm al-aïd, kaykoun ba'da al-shuruq. Ma kaykoun shi ba'd, aqabl. Wada kadalik hatta li kharjou, yani منتصف الليل النساء اللي خرجوا كان عندهم الرخصة يخرجوا من مزدلفة منتصف الليل ربما يوصلوا المنان قبل الفجر إلى غير ذلك ومع ذلك لا يجوز أنها ترمي ديك المرأة أو ديك الضعيف أو المريض يعني الجمرة قبل طلوع الشمس خصهم يستناو يجلسوا حتى يصليوا الفجر ثم يستناو طلوع الشمس عاد يديروا جمر العقبة الدليل في هذا عن ابن عباس قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغليمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمر حتى تطلع الشمس زاد سفيان فيه ولا إخال أحد يرميها حتى تطلع الشمس
Ici, Abdullah ibn Abbas, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit vous pouvez partir avant les autres, c'est-à-dire de minuit, vous pouvez partir déjà, mais il dit ne laissez pas les gens jeter la stèle illa quand le soleil sera levé. On voit bien que le prophète prévient Abdullah ibn Abbas, ceux-là qui sont partis avant, et c'est le hadith authentique, à ce moment-là, ça ne sert à rien d'entendre les autres hadiths, oui, parce que la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Même si la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, est-ce qu'il lui est arrivé ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique et qu'il dit à Abdullah ibn Abbas, vous allez partir avant, mais ne jetez pas la stèle jusqu'au lever du soleil. Il dit encore, ne laisse personne. Ne laisse personne jeter la stèle jusqu'au lever du soleil. إذن هنا الحديث نتاع عبد الله بن عباس اللي كيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الضعفاء والنساء ولكن كيقول عبد الله بن عباس عندك ما ترمش الجمرة حتى تطلع الشمس قال له ما تخلي حتى واحد يرمي الجمرة إلا بعد طلوع الشمس فهنا حديث هو حديث صحيح لا داعي ديك الساعة ولو سمعنا بعض أن العلماء يقولوا ولكن في امرأة الرسول صلى الله عليه وسلم الزوجة رمت قبل الفجر كذا وكذا لأنها من الضعفاء ما غيستناوش حتى يجيو الناس إلى غير ذلك نقول ولو كان لكن من قال أن هذا الحديث قد وصل إلى يعني زوج الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة فبما أننا عندنا حديث كيقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ما تمشي وتقدموا نعم ولكن تستنى وما ترميوش الجمرة حتى تطلع الشمس وله أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل إذا وجد حرجا في رميها قبل الزوال كما ثبت في الحديث alors il peut jeter la stèle jusque donc t'as jusque al-asr jusque même jusqu'à minuit même la nuit alors et c'est là la gravité de la chose quand les personnes arrivent par exemple de Muzdalifa on imagine bien les 2 millions les 3 millions qui sont arrivés ils vont jeter le stèle une seule stèle à la même heure, ils sont arrivés là, donc, parce que ça arrive une heure, deux heures en même temps. Alors, vous voyez maintenant avec les étages, etc., et tout ça, mais il faut bien savoir qu'il y a une majorité qui ne veulent pas monter sur les étages là, donc, etc., parce qu'il y a certains ulama, ils disent que ce n'est pas bien. Certains ulama, ils ne sont pas d'accord de faire ces étages, des stèles, et de jeter surtout Safa ou le Marwa, on en parlera par après. Mais on dit à ce moment-là, quand ils arrivent les 3 millions, c'est là qu'on a donc des accidents, des morts, etc. et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent faire un choix. C'est le jour de l'Eid, tu as 4 choses à faire. Hein? Jeter la stèle, égorger un mouton, faire le tawaf al-ifada et couper ses cheveux. Voilà les 4 choses qu'il faut faire ce jour-là. Hein? Alors ici, on peut faire choisir l'âne qui nous plaît facile. C'est-à-dire, si tu arrives ce jour-là, à telle heure ici, mais tu trouves du monde inimaginable, tu n'y arrives pas, tu n'arriverais pas devant la stèle. D'ailleurs, on ne peut pas la jeter de loin comme certains le font. Le caillou tombera les pierres sur la tête des gens, ça ne va pas non plus. Il faut avancer jusqu'à ce que tu viennes te près. Mais il y a du monde, il y a la mort là-dedans. Alors, ça ne sert à rien. N'y va pas là, tu passes où, tu vas à la Mecque, on va voir après, Inch'Allah, donc Tawaf al-Ifada, allez faire autre chose, allez égorger le mouton, si toi, tu vas l'égorger, on va voir après aussi. Ou alors, tu vas faire Tawaf al-Ifada, ou alors aller couper la tête, etc. et tout ça. Essaye d'éviter ce groupe. Tu as 4 choses, tu as trouvé beaucoup de monde ici, déplace-toi à une autre action où il y a moins de monde. إذن هنا يا نرى يكون الإنسان يمشي للمزدلفة يا عفوا من مزدلفة للمنان أنه يفهم الإنسان أنه كيكون تم في ديك اليوم بعد طلوع الشمس ولا سيما أنه الانطلاق إلى طبق السنة الانطلاق يعني بعد طلوع الشمس فلذلك بعض الناس كيقول كلا نرميانا قبل ما يكونوا كثرة الناس لا ما ينبغي أعطاك الرخصة البداية وأعطاك النهاية فلا داعي تزاحم الناس تما وتمشي انت في البداية باش ترمي او قع الموت الى غير ذلك اذا لا شفتي راسك ما تقدرش وفيها الناس بزاف كذا وكذا دير حاجة اخرى عندك ديك نار للرمي وعندك الطواف مع السعي وعندك حلق الرأس وعندك كذلك الذبح فدير حاجة اخرى هذا المناسك الربعة في ديك العيد يوم العيد شوف اللي غيناسبك ويكون فيها الناس قل مثلا تمشي انت تدير وعندك انك ترمي الجمرة العقبة الى الزوال والى منتصف الليل والى الليل كلش
هاي لا جبرت الناس بزاف استنى دير حاجة أخرى ولا استنى في القطن حتى يكون الناس نقصوا كل شي حاجة أو حتى لليل تمشي ترمي الجمرة يعني براحة ما كان لا موت ولا شي حاجة. لو أنه طبقوا هذا الشيء كان ما يدير له 7 طبقات ولا 6 طبقات لو أنه فهموا الدين وفهموا هذا الرخص اللي أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم أن عندك رمي الجمرات من طلوع الشمس إلى الليل ويفرقوها ما تدير لي لا 7 طبقات ولا 10 طبقات ولا فكوهم مثلا هما يديروا ديك الشيء النص يمشي للمنان النص يمشي يدير الطواف النص يمشي يستنى حتى العشية ويكون ديك الساعة ولكن الفهمات والو والعلم والو فلذلك يقتلوا بعضياتهم تما. نعم alors on disait qu'à ce moment-là il doit faire choisir à ce moment-là le moment qui lui correspond pour faire le jet des stèles. On dit qu'il y a 4 actions qu'il faut faire ce jour-là. Alors, choisis les lieux où il y a moins de monde. S'il y avait un peu de connaissances, d'études sur ça, l'État saoudien n'a pas besoin de faire 5 étages. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de monde. S'il savait que chacun peut faire ça, donc de lever de soleil jusqu'à minuit, on a le temps. On disperse les gens, cela c'est pour le tawaf, cela pour les stèles, etc. Une fois que les stèles sont pleins, on ferme les portes et donc ils doivent passer ailleurs de faire une autre action. Et il n'y aura pas donc ce problème-là de faire des étages, etc. et tout ça. فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر أو يحلق فليس ثيابه فيلبس ثيابه ويتطيب. Alors, s'il jette la stèle ce jour-là, s'il jette ses stèles ce jour-là, on appelle qu'il fait le premier tahlil. Hein, on dit quand sacralisation qu'on a fait au départ, ça reste comme ça jusqu'à ce que tu as fini les tawaf. Mais ici, quand tu as jeté les stèles, tu as fini, tu as fait la moitié, tu peux à ce moment-là t'habiller normal. Hein? Tu n'as pas fini encore les 3, tu n'as pas encore égorgé, tu n'as pas fait le tawaf, etc. Tu n'as fait que j'ai des stèles. À ce moment-là, tu peux enlever tes vêtements, tu peux faire du parfum, etc. Excepté, tu ne peux pas avoir donc des rapports avec ton épouse. Juste que tu as fini les 4 choses qu'on va citer auparavant. Et ça s'appelle ici, comment on appelle le tahlil. Ça devient par exemple licite certaines choses, la moitié. Au départ, quand on a fait les vêtements, etc., on a des tahrim, tout il devient illicite. Rapport, le parfum, les vêtements habillés, etc., tout ça. Mais une fois que tu as jeté la stèle, il y a une moitié donc, qui était illicite, ça devient licite. C'est-à-dire le parfum, de t'habiller, excepté que tu ne dois pas avoir des rapports avec ton épouse. Idan, idha arma al-jamarat al-aqaba, kay dir tahlil al-awwal. Ou tahlil al-awwal, هو أنه يدير العطر ويلبس اللباس المخيط إلى غير ذلك لكن بقي عليه ما يجمع شيء المرأة دياله حتى يكمل المناسك كلها اللي غادي نذكرها من بعد إن شاء الله. فإذا انتهى من رمي الجمرة تحل له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطوف عاد محرما كما كان قبل الرمي فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس الثوب الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم رخص لكم إذ أنتم رميتم الجمر أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا إلى غير ذلك يعني بالبيت. Alors ici, il faut bien faire attention, les gens commettent aussi une erreur, que quand tu jettes la stèle, on a dit que tu peux à ce moment-là enlever tes vêtements, les 2 insultes, et t'habiller les vêtements normaux, à condition que tu fais le tawaf, l'ifada, ce jour-là. Si jamais tu n'as pas fait le tawaf ce jour-là, c'est-à-dire que tu vas le faire demain, car tu as le temps de le faire ce jour-là ou demain. Si jamais tu n'as pas fait le tawaf al-ifada, tu l'as laissé jusqu'à demain, tu seras obligé donc de rhabiller tes vêtements de sacralisation, c'est-à-dire les 2 étoffes. Si tu l'as fait ce jour-là, khalas. Et là, c'est beaucoup de gens qui font cette erreur-là.
quand il fait jeter la stèle ou qu'il a fait deux choses, égorger ou couper, c'est-à-dire les cheveux, il enlève ses vêtements, mais il n'a pas eu le temps de faire tawaf al-ifada, et demain, lendemain, il le fait avec les vêtements normaux. Non, les vêtements normaux, tu peux faire le tawaf al-ifada quand c'est le jour de l'Aïd, le deuxième jour. Par contre, si tu dois le faire le 11, le deuxième jour, tu dois te rhabiller les vêtements de l'ihram que tu avais au départ. إذن هنا يغسل الإنسان ينتبه لهذا الأمر هذا أنه الإنسان إذا يعني منير من الجمرات قلنا يزول لباس الإحرام ويلبس اللباس دياله العادي لكن بشرط أنه ينتبه لهذه القضية إذا لبس اللباس دياله العادي وما يدرش الطواف ديك النهار خصو يدير الطواف ديك النهار يوم العيد لكن إلا ما وصلوش الحال وما درش طواف الإفاضة في ديك النهار يعني غادير هو لا غدا ديالو خصو ديك الساعة غيرد الإحرام ديالو يرد اللباس الإحرام ديالو باش يدير طواف الإفاضة والحديث اللي ذكرنا الآن ده الرسول صلى الله عليه وسلم طيب on a dit que ce jour-là on a quatre choses à faire. J'ai ramié Jamarat al-Aqaba, jeté la stèle, l'action de l'Aïd, égorgé un mouton, deuxième chose à faire, bon, après on va voir l'ordre. Troisième, c'est de faire tawaf al-Ifada, okay, avec le Safa ou le Marwa et tout ça, et couper ses cheveux, raser ses cheveux. Voilà les quatre actions qu'on doit faire ce jour de l'Aïd. Alors, on a vu une chose qu'on a fait maintenant. Maintenant, ça vient en ordre là-dedans. Qu'est-ce qu'on a fait d'abord? Le jet de la stèle, le jour de l'Aïd. Après, zebh, égorger le mouton. ثم يأتي المنحر في منى فينحر هديه وهذا هو السنة. لكن يجوز له أن ينحر في أي مكان آخر من منى وكذلك في مكة لقوله صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنى كلها منحر وكل فاج مكة طريق ومنحر فانحروا في رحالكم والسنة أن يذبح وينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره. Alors ici, donc, d'égorger le mouton, là, tu peux l'égorger donc, à l'abattoir qui est à Minan, ou alors tu l'égorges n'importe les lieux, donc la campagne et tout ça, même que ce soit à Mina ou à Gair Mina, à n'importe quel lieu. Alors, la sunna, c'est d'égorger ce mouton toi-même. Si ce n'est pas possible, etc., tu dois faire quelqu'un à ta place pour qu'il égorge à ta place. Ici, quand les pèlerins ou il y a un ordre par exemple que tu peux payer déjà, il y a donc des postes spéciaux. Par exemple quand il arrive à Mecca, il y a des postes qui va donner par exemple le prix donc du mouton, hein? Ils te donnent le billet comme quoi eux ils vont acheter le mouton à ta place, ils vont l'égorger à temps. Et ça c'est presque à 80%, c'est comme ça les gens qui font maintenant. Ils n'ont pas cette possibilité d'aller gorger eux-mêmes, dépouiller la bête, la détruire sur les pauvres, etc. Parce que c'est compliqué, ce n'est pas comme dans le temps. C'est pour ça, ici, ils ont basé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la sunna, ils disent, celui qui arrive à aller gorger avec sa main lui-même, c'est bien, c'est ça la sunna. S'il n'arrive pas, il donne à quelqu'un d'autre, le fera à sa place. Alors, ces banques-là qui sont là spéciales, donc de prendre de l'argent, d'acheter le mouton à ta place, de l'égorger à ta place, ils te donnent un ticket. Et avec ce ticket-là, tu peux aller chercher, par exemple, de la viande. Hein, si tu veux manger, par exemple, la viande, donc de ce que tu as égorgé, tu vas à l'abattoir avec ce ticket-là, tu prends ce que tu veux, un kilo, deux kilos, etc. Et tout ça. Non. Alors, ici, هنايا كيقول بأنه لا بد أنه الإنسان يحاول من السنة أنه يذبح ديك الحول بيده. لكن إذا ما استطاع شيء يذبح الحول بيده يعطي لشي واحد ينوب عليه ويذبح عليه فلذلك الآن اللي موجود وهو الأغلب اللي كيديروا الناس وهو أنهم كيعطيوا الفلوس كاينين بحال البنكات تما يعني بعض الشركات اللي كيختصوا بديك الشيء كتعطي لهم المبلغ نتاع الحولي وهما كيشريوا الحولي وهما كيذبحوا إلى غير ذلك ولكن بديك الورقة إلا بغيتي تاخذ اللحم ديك الضحية ربما ما يعطيكش من الضحية ديالك هو كشري وصافي لكن إلا بغيتي من الضحية شيء من اللحم كتمشي بديك التيكي وتاخذ اللي تبغي انت. نعم. ويذبحها مستقبلا بها القبلة فيضع على جانب الأيسر ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن. وأما الإبل فالسنة أن ينحر وهي قائمة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ووجهها قبل القبلة. ويقول عند الذبح بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا منك ولك. Alors, il égorge le mouton en le faisant la sunna, c'est-à-dire de l'égorger, de le mettre le mouton sur le côté gauche. De le mettre sur le côté gauche pour que tu auras la tête donc, de la bête sur ta main gauche et le couteau de la main droite. Okay? Alors, de l'égorger comme ça, toujours de mettre sur son côté gauche pour que tu auras la main. Si tu le mets sur la main droite à lui, donc sur le côté droit, tu auras quoi? Tu auras la tête dans la main droite et tu ne sais pas égorger avec la gauche, ça ne va pas, on égorge avec la main droite. Et alors de dire Bismillah wa Allahu Akbar, Allahumma hada minka wa lak, oh Allah, ça c'est de toi pour toi, c'est-à-dire la formule que tu dois prononcer. Par contre, les biles, c'est-à-dire le chameau, on l'égorge, on appelle ça nahr. Alors, quand on égorge le mouton, on dit dhabh, égorger. Quand on dit nahr, yanhar, c'est-à-dire les chameaux, on les gorge debout. On attache un pied hein, pour qu'il ne cavale pas. On attache un pied, il reste avec ses trois. Et debout, comme ça, on passe le coteau sur sa gorge, c'est-à-dire qu'on les gorge debout, qu'on appelle nahr. Et c'est pour ça qu'on appelle le jour de nahr. طيب نكتفي ربما بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم